Sur Radio G.
Novorama.
Salut, bienvenue, c'est Novorama. Salut Clément.
Salut Antoine.
Une heure de nouveautés et tu vas nous présenter cette semaine trois albums.
Oui, nous allons découvrir le premier album de Classe Photo, un nouvel album pour la légende Blockhead, la légende de
Ninja Tune,
instrumentale de Ninja Tune effectivement, ouais. Et un nouvel album également pour La Palux.
Et notre invité cette semaine, c'est le super Omar, le chanteur du groupe. Je l'ai rencontré à l'occasion du Mama Festival. On écoutera ça en deuxième partie d'émission. On commence tout de suite par le nouveau Classe Photo. Classe Photo dans Novorama, on vient de s'écouter Yeah, You Break My Heart, extrait de Light Years Later, Clément.
Oui, et après avoir participé à la tournée de Starfucker pour défendre leur troisième album Miracle Mile, eh bien Patrick Morris a décidé de se consacrer à un nouveau projet solo en 2014. Il a alors bougé de Portland à Los Angeles pour commencer à composer la matière pour son premier album, et ceci principalement dans son propre garage. Puis il a encore déménagé, mais pour Oslo, en Norvège cette fois, d'où est originaire sa femme, et où il a alors signé sur le label Janssen Records. Il a nommé ce nouveau projet aux sonorités 80s et 90s Class Photo, et en a appuyé les qualités rétro par une photo de couverture qu'on aurait pu trouver un peu dans les yearbooks américains de la génération X.
Et ce premier album intitulé Light Years Later est principalement inspiré par le sentiment de perte, hein, Clément.
Oui, et cela malgré une musique plutôt enlevée et enjouée, qui mélange la synth-pop 80s avec le côté le plus poppy du rock alternatif des 90s. Voilà, le morceau Driving in a Storm, par exemple, s'inspire des premiers disques du groupe Weezer, que Patrick Morris cite d'ailleurs comme l'une de ses influences. C'est l'un des très rares morceaux qui se repose sur les guitares avec le titre Magic Energy, qui nous offre à entendre une participation de l'écrivaine, réalisatrice et actrice Jacqueline Kim au chant, pour une jungle pop qui rappelle un peu The Vaseline pour les connaisseurs. Et il y a un côté branleur ou Beautiful Loser à ces morceaux, même sur les morceaux les plus raffinés, hein, qui reposent le plus souvent sur des synthétiseurs. Parmi ceux-là, le titre Foreign Pictures nous rappelle la dance pop 80s des Thompson Twins ou de The Human League, mais probablement de façon plus rudimentaire. Et Narrow Escape, hein, ce morceau-là nous commence un peu comme le clavier entêtant de Just Can't Get Enough de Depeche Mode. Voilà, par un clin d'œil humide à son père décédé avec le titre Yeah You Break My Heart qu'on vient d'écouter, il s'aventure dans un groove dansant et funky et des claviers 80s qui tranchent avec la mélancolie des paroles. Voilà, à travers l'album et même lors des sujets les plus lourds, cet esprit en roue libre est non seulement aidé par l'attitude tout en détente de Patrick Morris, mais par l'utilisation aussi d'interludes comme Intermède Incertitude où une jeune femme parle dans un français approximatif, ou encore cet autre court moment de boîte vocale servant à commander de la bouffe en livraison. Voilà, des petits sketchs en quelque sorte. D'autres indices pour réaliser que Class Photo est un projet qui assure dans le fait de ne pas se prendre au sérieux et qui réussit à prendre l'expérience particulièrement fun pour l'auditeur dans la plus grande tradition pop. On s'écoute tout de suite Foreign Pictures, un deuxième extrait de ce premier album pour Class Photo. Special dialect.
Novorama.
Oh,
Sugar Daddy's Lemon, un extrait du dernier album de Blockhead, un album que tu as écouté, Clément.
Oui, Tony Simon, hein, c'est l'homme qui se cache derrière le projet Blockhead. Eh bien, il a grandi au cœur de Manhattan et par conséquent dans la culture hip-hop. Alors qu'il n'était encore qu'un ado, sa carrière rap a commencé entouré de ses amis. Puis c'est côté production qu'il s'est le plus épanoui, après s'être lié d'amitié avec le rappeur Aesop Rock pendant ses études à l'université de Boston. Et de fil en aiguille, il s'est retrouvé comme la première signature américaine du mythique label anglais Ninja Tune.
Et 20 ans après ses débuts, il a alors sorti au printemps dernier l'album Free Sweet Pants, hein, une œuvre bavarde et regorgeant de MC en tout genre choisis par ses soins.
Oui, puis quelques mois après, voici qu'il nous offre un album principalement instrumental intitulé Bubble Bath et qui laisse entendre toute la dimension de son talent à s'approprier des samples et les faire muter pour mettre en valeur sa créativité. Voilà, ces 12 titres transportent l'auditeur aux frontières d'un trip-hop frénétique, bien que chaleureux, par la proéminence des basses. Et ceci dès le premier titre, On the Bright Side, jusqu'au titre qui a donné son nom à l'album Bubble Bath, où l'on comprend que chaque morceau est une intrigue qui s'étend à chaque nouvelle phrase mélodique. Et autant son album du printemps dernier donnait la part belle aux voix et aux mots, celui-ci utilise des mouvements mélodiques multicouches afin de donner à la musique sa propre voix. Des curiosités sont alors à découvrir au détour de chaque morceau, tandis que les polyrythmiques nous attirent vers ces fresques sonores, tantôt symphoniques, tantôt exotiques, et empruntant à des multiples genres mais faisant souvent la part belle au blues, traduit en beats hip-hop. Les qualités cinématographiques et narratives de ces morceaux donnent en tout cas envie de se raconter de multiples histoires, parfaitement mises en musique et en rythmique par un producteur et beatmaker dont on sent qu'il a la liberté de ceux qui n'ont plus rien à prouver et qui s'exprime un peu dans un langage dont il est devenu un véritable maître. Et sans attendre plus longtemps, on s'écoute un deuxième extrait, c'est Moist Ghost dans Novorama.
Again. N-O-V-O-R-A-M-A. Novorama.
Thank you.
C'était La Palux dans Novorama. On vient de s'écouter un extrait de Amnioverse, Clément.
Oui, à l'époque de son troisième album, Runism, le producteur Stuart Howard, donc la personne qui se cache derrière La Palux, eh bien, a fait évoluer sa musique du R&B sirupeux et de ses mutations hip-hop en faveur d'un design audio plus pointu et tout en déconstruction, plus proche de producteurs visionnaires comme Rabbit ou Demdike Stare.
Il a aussi changé les thèmes qu'il abordait, abandonnant les rêves langoureux pour davantage explorer des réflexions alarmistes sur la mortalité.
Oui, l'album Amnioverse prolonge ses velléités existentialistes avec ce titre en mot valise qui associe liquide amniotique et univers, donc à Amnioverse, faisant référence à un cycle perpétuel et fluide de vie, de mort et de renaissance. Cet album nous présente alors son travail d'arrangement le plus complexe et minutieux à ce jour, incorporant des sonorités de synthétiseurs modulaires en décomposition tout en détail, qui progressent d'une quasi-immobilité à des sections rythmiques fracturées et menaçantes. Les voix restent un élément important de la musique de La Palux, avec deux chanteuses invitées, JFDR et Lilia, qui offrent des moments clés de son émouvante introspection. Mais cette fois, Stuart Howard a ajouté à ses morceaux des fragments de paroles de personnes qui lui sont très proches. Alors à certains égards, ces moments sont absolument bouleversants, comme sur le morceau Earth, lorsqu'un homme exprime sa peine de cœur et la morosité du monde à cet instant. Et par moments, l'ambiance devient aussi cryptique et atmosphérique que celle développée par le producteur Burial, mais propulsée dans l'espace plutôt qu'étouffée sous un oreiller et dans une ambiance moite. Et sur le morceau Voltaic Acid, des rythmiques breakées ressemblant à une jungle barrée, eh bien surgissent de nulle part après plusieurs minutes d'émotion et de solennité, rendues encore plus acerbes par des séquences de synthétiseurs acides et tourbillonnantes. D'autres comme Momentine et Thin Air se développent sur des rythmiques techno plutôt que de tourner autour, et l'on s'aperçoit alors que ces sensations de suspense et d'émerveillement sont véritablement le carburant de l'album et maintiennent l'attention de l'auditeur de façon très convaincante. Le titre Limb to Limb, lui, est sans doute le morceau au chant le plus touchant et mémorable, avec la voix de Lilia qui survole avec majesté et sans heurts des breaks pourtant aussi menaçants que désarticulés. Tandis que The Lux Quadrant, qu'on vient d'écouter, eh bien c'est une électro déformée dans la veine de Lanark Artifact ou Object, offrant une pause avec le chant élégiaque JFDR. Comme l'album Runism, Amnioverse, c'est une œuvre ambitieuse qui ne laisse pas indifférent et qui semble évaluer l'existence dans son intégralité. Il est alors difficile de ne pas être touché à son écoute. Et j'espère que vous serez aussi à l'écoute de Limb to Limb featuring Lilia, extrait de ce nouvel album de La Palux. Let it begin. un extrait du nouvel album de La Palux. Et tout de suite, on s'écoute l'interview de la semaine. Antoine, tu as rencontré le Super Omar. C'était à l'occasion du Mama Festival.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
Bonjour le Super Omar, c'est
ouais,
ça?
C'est ça. Ah,
c'est ton nom de scène. On va en parler. C'est d'abord un projet solo.
À l'origine, c'était un projet solo hein,
qui a évolué vers un groupe.
Par la force des choses.
Le Super Omar, est-ce que François Dorigy est un de vos amis?
Non, pas vraiment. Non. Je ne connais pas ce monsieur.
Ah bon?
Je ne fréquente pas non plus.
Ouais. D'accord, bon, ouais. Tu as suivi cette polémique effectivement.
Oui, oui, oui. Ah, forcément,
l'été dernier.
J'ai eu droit à pas mal de photomontage ou de trucs comme ça.
Ah ouais, ouais d'accord.
Ouais, ouais.
Et le Omar, donc le Super Omar, on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est un nom qui vient d'une discothèque dans un film français.
C'est ça? C'est ça. Ouais.
Et vous êtes un groupe qui chante en anglais?
Oui, oui, ouais, ouais.
Pas trop de cohérence là pour le coup.
Alors, si, il y a une cohérence quand même. C'est que en fait, donc le Super Omar a démarré comme un projet solo. Hein.
Ouais.
J'ai fait un premier mini-album en 2015,
ouais.
Où j'étais tout seul avec une chanteuse anglaise qui chantait sur quelques morceaux. Il y a beaucoup d'instrumentaux en fait. Et en fait, le disque est tout de suite sorti sur un label japonais et j'avais pas de nom.
Ouais.
Et je voulais un nom qui fasse français. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le Super Omar. Alors j'ai choisi.
C'est plus vendeur à l'étranger alors.
Bah, c'était au Japon.
En tout cas au Japon, ouais.
Au Japon, voilà.
Ouais,
ils voulaient le label, c'était le label Rally, donc ils voulaient un nom. Ils m'ont dit ouais, prends un nom qui fasse français, quoi.
Ouais.
Et moi mon surnom. Le film Ne nous fâchons pas, c'est un film que j'ai beaucoup. Beaucoup le regarder quand j'étais gamin, quand j'étais vraiment adolescent, parce que je jouais dans un groupe néo-60s, on va dire, et notre premier morceau, ça a été de reprendre la BO de Nous ne fâchons pas, en fait.
Ah, d'accord.
Et donc,
okay.
C'est pour ça que le Super Omar, c'était un truc. Depuis que j'ai commencé la musique quand j'avais 17 ans, c'était le nom de notre label, c'était le nom de. Voilà. Et j'ai gardé ce nom-là parce que c'était un peu mon surnom. C'était mon studio qui s'appelait le Super Omar.
Le Super Omar, d'accord.
Voilà, voilà.
Et c'est vendeur, ça, au Japon, le Super Omar?
Ouais, c'était rigolo. Ouais,
ouais.
Bon, après, le premier mini-album, il est sorti d'abord au Japon, puis après, de fil en aiguille, il est sorti dans plein de pays.
Mais pas en France.
Si, il est sorti en France.
Mais pas tout de suite. C'est d'abord au Japon.
Un an et demi après,
ouais.
Il est sorti en France.
Et pourquoi? Parce que tu penses qu'en France, ta musique ne marcherait pas?
Non, c'est que en fait, j'ai un parcours musical un peu atypique. Moi, j'ai toujours sorti des disques à l'étranger.
Ouais.
Depuis que je suis jeune, quoi. Et j'étais sur un label anglais, j'étais sur un label américain, et j'ai sorti un disque au Japon en 2001 avec un groupe que j'avais de l'époque, et j'avais adoré ça. Et après, je suis allé jouer plus tard au Japon et j'adore ce pays. Et voilà, je voulais sortir un disque au Japon. C'était
un rêve, ouais. Ouais.
Voilà, je voulais le refaire parce que j'avais déjà fait. Et en fait, c'est sorti au Japon, après, c'est sorti en Angleterre. Et après, il y a un label français qui n'était même pas français, qui était suisse, qui l'a sorti en France.
Voilà. C'est plus facile de jouer au Japon qu'en France?
Non, j'ai joué qu'une fois au Japon il y a longtemps,
ouais.
Mais non. La France, c'est quand même l'endroit. La France, l'Angleterre, c'est les deux seuls endroits où pour l'instant on joue vraiment, quoi.
Ouais, pour être déjà allé au Japon, les prix des places de concert sont très chers.
Ah ouais, ouais. Non, mais ouais. Le Japon, c'est une logistique de fou hein, pour aller jouer au Japon. Mais bon, on espère.
Même un petit groupe, je crois que c'est 30 euros au minimum à peu près pour,
pour
dans une salle à Tokyo.
Je me rends pas trop compte, c'est vrai. Mmh. Moi, je suis déjà allé, mais j'avais fait une petite tournée là-bas, mais c'était super. C'est un des meilleurs souvenirs de ma vie, quoi. J'adorais ça. Ouais.
Et c'est bien d'où cette fascination pour le Japon?
Bon,
c'était pas le manga.
C'était
ce changement de culture.
À l'époque, c'était super branché. Le Japon, ils étaient à la pointe de la pop, des trucs. Je sais pas, c'était super branché.
C'était dans quelles années à peu près?
Moi, j'ai commencé à faire la musique au début des années 90, mais ça, c'était vers les années 2000, quoi. Je crois que c'était en 2001 qu'on était sorti au Japon. Et c'était le moment où. C'était la classe d'aller jouer au Japon, c'était super, moi j'adore ça. Ouais.
Et le public?
Le public est super bien au Japon, et en plus ils sont fanatiques et ils ont une manière d'aborder les disques. Les disques sortent avec des éditions spéciales, j'aime beaucoup le côté collector, voilà, donc ça m'a toujours plu. Et on a sorti même le nouvel album est sorti au Japon aussi.
Ce qu'on dit souvent, c'est qu'au Japon il faut garder sa culture française, donc chanter parfois un côté kitsch.
Alors non,
pourtant vous l'avez pas.
Chanter en français, pas forcément.
Ouais.
Alors moi personnellement, je suis très très ami avec Xavier Boyer, le chanteur du groupe Tahiti 80, qui est un groupe qui a cartonné au Japon à l'époque.
Oui, c'est sûr. Ouais,
des demi-dieux là-bas.
Oui, c'est sûr. Ouais.
Voilà. Et eux, ils chantaient en anglais. Alors c'est pas pour faire pareil que lui. Hein. J'ai jamais eu la prétention d'avoir autant de succès que lui, mais lui, je pense qu'il est fasciné aussi comme moi par ce qui se passe là-bas, quoi. Le côté un peu pointu, voilà, ça lui plaît, ça me plaît aussi.
Alors, le Super Omar, on pense à pas mal de groupes en vous écoutant. Moi, j'ai pensé à Melody Echo Chamber, Stereolab.
Ouais.
C'est des références qui viennent souvent. C'est des influences d'ailleurs pour vous ?
Alors, c'est des rapprochements qu'on m'a fait. Des influences, pas vraiment. Si, j'ai écouté pas mal Stereolab. Melody Echo Chamber, j'aime bien aussi. Hein.
Ouais.
Mais c'est, en fait, je pense qu'on se rejoint en termes de type de musique parce qu'on écoute les mêmes choses. Le Super Omar, moi, c'est un truc que je fais, que j'ai fait récemment. Mais ce type de musique, moi, je fais ça depuis. Enfin, pas exactement pareil, c'était plus rock ce que je faisais, mais il y a 20 ans, je faisais à peu près les mêmes trucs, quoi.
Ouais, voilà. Ce sont toujours un peu rétro-futuristes.
Ouais, voilà, le rétro-futuriste. Alors, moi, c'était vraiment, j'ai joué dans des groupes 60s à tendance, je sais pas si vous voyez ce que c'est le mouvement mode, genre le mode revival, c'est-à-dire genre vraiment années 60, coupe à la Beatles, voilà, boots, voilà. Vraiment,
les scooters, tout ça.
Voilà, les scooters, tout ça, voilà. J'ai vachement, depuis que je suis ado, j'ai baigné dans ce milieu-là et j'ai joué.
T'as le look, hein, bon, on va le dire aussi parce que bon, là, on est à la radio, mais
beaucoup moins que
look, ouais.
Beaucoup moins quand j'avais 18 ans quand même.
Ouais.
Voilà.
On va écouter un morceau de votre premier album, il s'appelle Springtime.
Alors, le premier c'est un mini album, c'est le premier véritable album.
Ça, c'est le véritable premier album. Il y a ce morceau en tout cas, Springtime.
Ouais, Springtime, c'est le printemps. Single, plutôt le single de l'album. Quoi.
Une saison idéale, le printemps pour composer,
Pour
enregistrer.
Ouais, après nous on habite dans le sud de la France, donc.
Ouais, il fait toujours beau.
Il fait toujours beau. voilà.
On enregistre à Paris. Hein,
je sais.
Tu viens nous taquiner ici.
Voilà. Non, c'est vrai qu'il fait. Nous, c'est le soleil, c'est quand même un truc. Nous, on habite dans le sud de la France, vraiment, la région d'Avignon, donc.
Le printemps, c'est la saison idéale pour vous.
Ah oui, ouais, moi.
Il fait pas trop chaud encore.
Ouais, voilà. Aussi. Après, il fait vraiment trop chaud après.
Ouais,
c'est la saison. C'est la saison où les bébés naissent. C'est bien.
On va l'écouter ce morceau, Springtime. C'est le Super Omar dans Novorama. On se retrouve juste après.
Yeah.
Le Super Omar dans Novorama. On est à Paris pour le festival Mama, Mama Festival. Ça fait quoi de jouer dans ce festival? C'est un festival, on dit, réservé un petit peu aux professionnels, même si public peut venir, le grand public peut venir acheter sa place. Mais il y a beaucoup plus de pros que dans un concert traditionnel. On se met un peu la pression avant de monter sur scène.
Un petit peu, on joue dans une heure, là. Bien sûr, c'est pas pareil que d'habitude. Alors, on a la chance d'avoir fait à peu près l'équivalent en Angleterre il y a quelques mois.
À Brighton,
ouais. Et donc c'est à peu près le même topo, quoi. Ouais. Sauf que là, les gens, on les connaît quand même un petit peu plus. Il y a beaucoup plus de monde qu'on connaît. Donc oui, on a bien la pression, mais bon, on va faire le truc, quoi.
Ouais. Et t'attends quoi de ce festival
Je pense que c'est
d'en faire d'autres des festivals.
Ouais, bien sûr. Ouais. C'est une espèce de cheminement. C'est super de jouer là. Hein. C'est vraiment, c'est flatteur d'être programmé. En plus, on est dans une super salle, un super horaire, donc. On attend beaucoup de choses. Ouais. On attend beaucoup de choses de ce festival.
Parce qu'à Paris, c'est pas la première fois que vous venez, je crois.
Non, on a joué plein de fois.
On
a fait Point Éphémère il y a pas très très longtemps. On a joué deux fois au Supersonic. On a fait l'Olympique Café aussi, je crois qu'on avait fait. On a fait notre release party aussi. Je me rappelle plus où c'était. Au 1999, je crois. Mais on a fait plein. Ouais. On essaie de venir régulièrement quand même, parce que c'est là que tout se passe en France. Ouais, clairement.
Paris.
Clairement. Ouais.
Et dans le sud de la France, justement, on parle souvent des groupes parisiens, tout ça, mais il y a un peu moins. Enfin, on a l'impression qu'il se passe un peu moins de choses dans le sud.
Forcément, parce que l'industrie musicale
est
très concentrée à Paris. Après, il y a énormément de.
Il y a beaucoup de groupes.
On est dans la région d'Avignon, entre Avignon, Nîmes, Montpellier. Il y a pas mal de choses à Montpellier. Avignon, j'avoue que j'ai un peu décroché.
Ouais.
Je sais plus trop ce qui se passe, mais
parce qu'à part This Is Not a Love Song, le festival à Nîmes.
Ouais, voilà, mais c'est assez récent le festival de Nîmes et la salle Paloma qui nous suit d'ailleurs, hein, qui est notre référent, quoi. Enfin, c'est la SMAC, ce qu'on appelle une SMAC, c'est les salles de concert. La salle Victoire de Montpellier, ce sont les deux structures qui nous soutiennent, quoi. Mais c'est assez récent, en fait. La salle, moi, je me rappelle avoir joué avec mon ancien groupe en ouverture de Paloma, et c'était il y a 7 ans ou un truc comme ça. C'est assez récent, quoi. Et il se passe plus énormément de concerts à Avignon. À Avignon, il y a le Festival d'Avignon, mais il n'y a pas vraiment de musique. Ça commence un petit peu à changer là, mais ça n'a jamais vraiment accroché.
Avignon, on pense tout de suite au théâtre, effectivement.
Voilà.
Ouais.
Mais il y a eu des tentatives de trucs de musique. Après, il y avait une scène vivace musicale. Nîmes, Montpellier, Avignon, il y a beaucoup de groupes quand même. Hein.
Sans le Paloma, justement, vous ne pourriez pas avancer. Obligé d'être.
On n'est pas obligé.
Parce qu'en France, on a quand même beaucoup d'aide comparé par exemple en Angleterre.
Moi, j'ai jamais.
Un pays musique.
En Angleterre, c'est marche ou crève. Hein. C'est même la folie. Nous, on a joué avec des groupes anglais. J'ai discuté avec des mecs qui sont quand même à un tout autre niveau que nous en termes de notoriété. Ils galèrent comme des fous, hein.
Ouais.
Et en plus, la vie est dure en Angleterre. C'est vrai que ça m'a pas donné envie d'être musicien en Angleterre. Ça fait pas rêver.
Parce qu'il y a
pas
de subventions, il y a pas d'intermittence.
Et puis il y a pas de cachet aussi. Enfin, les gens qui sont pas payés, tu payes ta bouffe, tu payes tout. Hein.
Et pourtant, il y a plein de groupes qui marchent, qui fonctionnent, qui s'exportent en Angleterre. Mais il y a moins d'aide.
C'est vraiment.
C'est un paradoxe pour le coup, parce qu'en France, on a pas mal d'aide.
Y a quand même une grosse sélection à la base. Hein. C'est-à-dire que les mecs qui réussissent à l'étranger, il faut vraiment qu'ils soient bons. Hein. Je pense que.
Mais comment t'expliques qu'en France on n'arrive pas à exporter plus de groupes
c'est
Phoenix
c'est culturel. On a quand même.
C'est la barrière de la langue.
Ouais, c'est assez récemment, ça a vachement changé ça. Hein. Mais c'est un truc que je qualifierais ça, enfin je daterais ça d'il y a un an ou deux. Nous, quand le disque est sorti en Angleterre, on est énormément passé à la BBC. Enfin, on est énormément passé, on passe beaucoup à la BBC. Et en fait, il y a un changement d'attitude envers la pop française assez récent. Les labels anglais commencent à signer des groupes français qui chantent en français. Ce qui se faisait, enfin moi.
Il y a Gainsbourg qui a réussi
Il y a 20 ans, c'était impossible. C'est de moins en moins un frein en fait. Je sais pas si c'est le fait que de sortir de l'Union Européenne, les mecs qui veulent résister un peu à ça s'ouvrent vachement à l'étranger, mais notamment à la culture française en ce moment. Il y a toute une scène française. Je sais que par exemple, il y a un magazine anglais que j'adore qui s'appelle Shine Dig qui a fait un dossier spécial France récemment. Ils ont fait 7 pages sur Bertrand Burgala. Il le considère comme un génie il a peut-être plus de reconnaissance par des magazines comme ça que dans son propre pays quoi en ce moment.
Mais lui il a une influence aussi anglo-saxonne dans sa musique.
Mais nous aussi moi je veux dire moi l'Angleterre c'est quand même le truc
parce que Juliette Armanet par exemple
par exemple Alomot a signé sur Evently un label anglais historique, elle chante en français la moitié du temps et je trouve ça génial quoi, c'est super quoi.
Est-ce qu'on pourra entendre un jour un morceau du Super Omar en français?
Je sais pas. Pour l'instant, moi, c'est pas dans mes plans. Après, on va voir.
Pour attirer les radios, les quotas.
Non, mais souvent, on va les radios. Non, de toute façon, les radios, oui, à part. On passe un petit peu à la radio en France, mais c'est pas. Même si on chantait en français, je pense que. Ouais. Après, on est sur un label étranger aussi, donc chanter en français, ça a peut-être beaucoup moins d'intérêt pour eux. Quoi. Voilà.
C'est ça.
Voilà. Et on est sur un label espagnol en plus, donc l'Espagne, c'est quand même plus difficile parce qu'on chante en anglais. Notre label est un des labels espagnols les plus connus, mais ils sont très pop en espagnol, quoi.
Ah oui.
Donc, pour nous, c'est peut-être.
On est plus chauvin.
Ouais, c'est plus difficile pour nous.
Ah ouais, c'est plus difficile. Ouais.
Après, les pays où on a été le mieux accueillis, enfin, en termes de réception presse, tout ça, c'est vraiment la France et l'Angleterre, quoi.
Ouais.
C'était là où on a vraiment forcé le truc parce que et le Japon aussi, mais l'Angleterre pour nous c'était le nerf de la guerre, quoi. Dans le genre de musique de type de musique qu'on fait, si tu as une reconnaissance de la part des Anglais, c'est quand même déjà un bon signe, quoi. Voilà. Et bon, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Ouais.
Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux, le Super Omar aujourd'hui?
Déjà de faire un super concert dans une heure. voilà. Et puis de continuer. Continuer à progresser, quoi. On a encore tout à faire, hein. Donc voilà.
Eh bien merci.
Mais merci à toi.
On va écouter un dernier morceau. Tu veux qu'on écoute lequel? Quel morceau du premier album? Un morceau à garder, par exemple.
Springtime est très bien. Après, j'ai une affection un peu particulière pour le tout premier morceau, qui est un morceau instrumental qui dure une minute ou deux minutes, quoi, qui s'appelle In the Park.
Ah, tu qu'on écoute un morceau d'une minute?
Non, il dure deux minutes. Deux minutes, on va dire. Mais c'est un morceau instrumental, par contre, avec une ouverture. J'ai une affection particulière pour celui-là parce que j'aime bien.
Ouais, d'accord. Voilà. Ok, bien, merci.
Merci
Christophe, merci le Super Omar. Merci d'être passé dans le drama.
NOVO RAMA Novo Rama.
Écoutez Fresh de Gang Signs dans Novorama. Ils viennent de sortir un album, il s'appelle Delivery. Ce groupe canadien vient de Vancouver et oscille entre une sorte de trip-hop et un mélange d'électronique avant-gardiste. C'est plutôt original. On soutient donc Gang Signs dans Novorama. C'est déjà la fin de notre émission de cette semaine. Clément se retrouve sur internet.
Novorama.com.
Novorama pour écouter cette émission, réécouter l'interview de cette semaine, le super Omar, et découvrir d'autres nouveautés. Très bonne semaine à vous toutes et à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, avec une spéciale transmusicale. Salut.
Salut Antoine.
When I wonder myself, where did all this begin?
Radio G.
Transfréquence. Un vendredi sur deux. De 19h à 20h.